Bonjour Aymeric Galard.
Bonjour.
Aymeric Galard, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes également paroissien à Bagnères-de-Bigorre. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Nous nous apprêtons à célébrer la naissance de Jésus et il nous a semblé que c'était l'opportunité pour parler de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Alors, dans cette émission, nous aurons la joie d'entendre notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika, qui nous parlera de la parole, de la position de l'Église, qui nous dira ce que l'Église pense et dit de la vie. Et avec vous, dans cette première partie d'émission, eh bien, nous allons voir un petit peu le regard scientifique, une approche scientifique de la vie. Et ma première question est celle-ci. À quel moment commence la vie, docteur Aymeric Galard?
Alors, je crois que la vie d'un nouvel être humain commence très tôt. En fait, elle commence quand toute l'information génétique nécessaire et suffisante se trouve réunie dans la première cellule du nouvel être humain. C'est-à-dire quand toute l'information génétique qui provient du père avec les 23 chromosomes dans le spermatozoïde rencontre toute l'information génétique qui provient de la mère avec les 23 chromosomes de l'ovocyte. Et alors là, se trouve réunie dans cette première cellule, tout ce qu'il faut pour construire un nouvel être humain, celui à qui on donnera un prénom 9 mois plus tard, mais qui, à ce moment-là bien précis, se retrouve finalement réduit à sa plus simple expression.
Et très vite, la cellule évolue et la nouvelle vie se poursuit. Comment ça se poursuit? Comment elle se développe cette vie de ce qui est alors un embryon minuscule?
Oui, alors cette première cellule qu'on appelle aussi zygote ou œuf va bien sûr se multiplier, elle va se diviser, elle va donner 2 cellules, puis 4, 8, 16, ainsi de suite. Ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que c'est bien sûr un développement progressif, continu, très progressif. Le premier mois, l'embryon va s'individualiser. Le deuxième mois, c'est le mois de la formation des organes. C'est aussi ce qu'on appelle l'organogénèse. À partir du troisième mois, on va parler de fœtus, voilà, dans ce développement progressif. Alors, on peut parfois être un peu perdu avec les différents termes médicaux utilisés. Si vous voulez, en fonction de l'âge du corps humain, on va avoir plusieurs appellations. On va parler par exemple d'un embryon. En ce qui concerne les 2 premiers mois de grossesse, à partir du troisième mois de grossesse jusqu'à la naissance, on va parler d'un fœtus. Et après la naissance, on continuera aussi à utiliser des termes différents. Un nouveau-né, de la naissance à l'âge de 1 an, on parlera d'un nourrisson. Ensuite, on parlera d'un enfant, puis d'un adolescent, d'un adulte et plus tard d'un vieillard. Vous voyez, en fonction de l'apparence de l'être humain change tout au long de la vie et on utilise des termes différents, mais on parle bien sûr toujours de la même chose, d'un corps humain, d'un être humain.
Voilà, on parle toujours d'un être humain et toujours donc de cette vie qui naît qui commence dans le corps de la femme. Alors, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est légalisée jusqu'à 14 semaines de grossesse, c'est-à-dire 3 mois et demi. À quoi ressemble l'embryon à ce stade? Le fœtus, puisque il est un fœtus à ce stade.
Oui, effectivement. Alors, à ce stade, donc effectivement, c'est un fœtus. Pendant les 2 premiers mois de grossesse, l'embryon a une forme assez sommaire. À partir du troisième mois, on l'appelle fœtus, et alors il a bien sûr une forme beaucoup plus humaine. C'est une évidence avec bien une tête, un cou, un corps. Des membres, des doigts, des orteils. Pour peut-être donner un exemple, le meilleur exemple, je crois, c'est l'échographie du premier trimestre de grossesse qui est réalisée aux alentours de 2 mois et demi, en fait, de grossesse. Et Tout le monde a vu quasiment, je pense, ces images d'échographie, surtout que maintenant, avec les progrès, on peut même faire des reconstructions en trois dimensions. Et donc, on a un fœtus qui mesure à ce moment-là 2 mois et demi, donc 5-6 centimètres, hein, de la tête aux fesses, parce que les membres inférieurs sont repliés sur le corps. Et évidemment, surtout quand la coupe échographique est faite de profil, on voit très bien, notamment au niveau de la tête, le visage, le relief du nez et de la bouche.
Alors, vous nous parlez de l'embryon, donc le tout début de la vie avec ses cellules, du fœtus qui, à 2 mois et demi, a déjà des orteils, vraiment le corps bien dessiné, reconnaissable. Vous nous parlez là d'un être humain, un embryon, un fœtus. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un être humain?
Évidemment là, est-ce que ce corps humain est un être humain? Est-ce que cet être humain est une personne? On est évidemment dans des questions qui appellent peut-être plus des réponses philosophiques que scientifiques. C'est vrai que la nature est ainsi faite que tout homme commence sa vie dans un ventre maternel, dans le corps d'une autre personne. Alors, est-ce qu'un embryon qui a une forme sommaire et qui n'a pas l'apparence d'un être humain n'en est pas un? Est-ce qu'un fœtus qui lui a clairement l'apparence d'un être humain en est un? Mais est-ce que c'est un être humain mais c'est pas une personne? Je sais pas, est-ce que vous avez déjà croisé des êtres humains qui ne sont pas des personnes? Ou des personnes qui ne sont pas des êtres humains? Peut-être à un moment donné, me semble-t-il, on est là dans de la pure intellectualisation, en fait.
Alors, j'aimerais qu'on parle de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Depuis 1975, elle est autorisée à 10 semaines de grossesse. En 2001, le délai pour recourir à une IVG est passé à 12 semaines et il est passé à 14 semaines en 2022. Et puis, il faut indiquer aussi que l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, est possible jusqu'à la naissance. Comment on discerne sur ces décisions? Est-ce qu'on peut disposer comme on veut de ces interruptions volontaires de grossesse? Quel accompagnement est fait? Et d'un point de vue médical, scientifique, puisque aujourd'hui c'est votre parole de médecin que nous entendons, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'accompagne?
Alors, je crois que ça s'accompagne avec tout d'abord beaucoup d'écoute et d'empathie. Ça, c'est le plus important. Le fait est que la médecine aujourd'hui se met au service. Elle se met au service de l'enfant à naître et elle se met aussi au service de la mère ou du couple. Pour l'enfant à naître, elle se met au service de l'enfant à naître avec parfois beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je pense aux thérapies in utero. Vous savez qu'un enfant avant de naître peut être malade. Et on peut, par exemple, il y a des spécialistes, des chirurgiens qui peuvent être amenés à opérer le bébé dans le ventre de sa maman, à utérus ouvert, pour aller, par exemple, réparer, lui soigner la colonne vertébrale. Je pense au spina bifida. Oui, c'est magnifique. Un bébé avant de naître peut aussi, par exemple, avoir une anémie sévère et des spécialistes vont aller le transfuser dans le ventre de sa maman. Voilà, pour vous dire à quel point on peut faire des choses voilà, magnifiques. La médecine se met aussi au service parfois de la mère ou du couple qui vont être en grande souffrance avec ce bébé à naître pour des raisons diverses et variées qui ne nous appartiennent pas de juger. Et à un moment donné, cette mère, ce couple vont demander bien sûr une interruption de grossesse. Alors, ça renvoie évidemment à la question de fond de savoir si l'on peut disposer et décider de la poursuite de la vie d'un nouveau corps humain avant sa naissance. En tout cas, si la réponse est oui, on peut en disposer, on peut alors se demander, mais à quoi bon alors fixer des délais? Qu'est-ce qui fait qu'à 14 semaines moins un jour, on ne peut pas? 14 semaines plus un jour, on peut. Qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures pour justifier ça? Je crois que là, on n'est pas dans quelque chose de scientifique, en fait, c'est pas rationnel.
Justement, d'un point de vue de la loi, l'Assemblée nationale a voté l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que ça change?
Bon, je crois que là, ce sont des discussions et des décisions juridiques, politiques. Vous savez, ce qui est légal est variable en fonction de l'époque, du pays, en fonction de la société, en fonction des dirigeants, de la culture. Par contre, ce qui est moral, normalement ne varie, enfin, ce qui est moral, ce qui est éthique, on dirait aujourd'hui, normalement ne varie pas en fonction du temps ni en fonction du lieu. En fait, la réalité, hein, de la vie du médecin sur le terrain, c'est qu'il se retrouve face parfois à deux situations. Il peut avoir d'un côté une patiente, une mère, un couple en souffrance avec l'enfant à naître et qui va demander d'interrompre cette nouvelle vie. Et en même temps, le médecin se retrouve face à cette nouvelle vie humaine, petite, fragile, vulnérable, qui est encore cachée dans le ventre de sa mère. Et dans ces situations-là, le médecin, il est renvoyé à sa conscience, me semble-t-il. Alors il peut avoir comme boussole, comme guide, le serment qu'il a prononcé un jour en levant la main droite, le serment d'Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate. Et c'est vraiment encore aujourd'hui considéré comme un texte fondateur de la déontologie médicale. Peut-être juste, permettez-moi juste de citer quelques phrases que je relis toujours avec beaucoup d'émotion. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Vous voyez, ce sont des paroles très fortes. Et puis, il y a aussi pour ceux qui ont la foi, cette parole du Christ, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, toujours est-il que, en conscience, le médecin se retrouve à un moment donné ou à un autre, face à sa conscience, devant toutes ses décisions ou ses gestes.
Merci beaucoup, docteur Aymeric Galard. Alors, on vous souhaite un très bon Noël et on profite de cette émission pour saluer aussi tous les médecins qui vont, et tous les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qui vont être en service pendant ces temps de fête. On les remercie pour leur dévouement. Merci à vous. Très bon Noël.
Merci beaucoup, bon Noël.
Présence.
Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Dans quelques heures, nous célébrerons la naissance de Jésus, du divin Messie. Et dans cette émission, eh bien, nous parlons de la vie. Nous venons d'entendre le docteur Aymeric Galard qui nous a donné l'analyse scientifique, médicale de ce qu'est la vie. Et avec vous, on va s'interroger sur ce que dit l'Église de la vie. Pour l'Église, la définition de la vie est-elle autre que celle donnée par la science, de la définition qu'on vient d'entendre? Et si oui, pourquoi, Monseigneur Mika?
Bien, en partie, elle est la même, et en partie, elle est évidemment différente. Chacun ayant un propos un objectif différent dans son propos. La science d'un côté, la foi et la révélation de l'autre. Donc, qu'est-ce que la vie pour un chrétien, pour un croyant? Elle est d'abord un don de Dieu. Elle est d'abord l'objet ou le résultat d'une initiative de Dieu. Dieu a voulu la vie, il a créé la vie. Et il le fait avec deux pardon si je suis un peu iconoclaste, mais avec deux instruments dont témoigne déjà l'Ancien Testament. Dès le premier livre, dès les premiers mots de la Bible, ces deux instruments sont présents. Dès même le premier verset, quasiment, les deux instruments avec lesquels Dieu crée la vie sont sa parole et son souffle, qui plus tard, dans le développement de la révélation, progressivement apparaîtront comme étant des personnes à part entière de la Trinité dans la foi des chrétiens. La parole, c'est le Verbe fait chair à Noël, et le souffle, c'est l'Esprit Saint donné à la Pentecôte. Et Dieu crée par sa parole, Dieu dit et cela fut. On dit que la parole de Dieu est performatrice, c'est un terme théologique très très technique, qui dit que Dieu, cette parole fait ce qu'elle exprime au moment où elle l'exprime. Dieu dit et cela fut. Voilà, la parole est immédiatement efficace. Que cela soit et cela est. Voilà. Donc Dieu crée par sa parole, mais ça ne suffit pas pour créer la vie. Ça pose dans l'être. Ça fait exister ce qui n'existait pas, mais ça ne suffit pas pour donner la vie. Pour donner la vie, il faut que ce qui a été créé soit animé, reçoive une âme, et c'est le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, qui va venir animer ce qui a été créé et le rendre vivant. Voilà, la vie est donc sacrée du point de vue de la révélation biblique, parce qu'elle est créée par Dieu, voulue par Dieu, et faite pour Dieu. Tout le vivant, tout le créé, est destiné à revenir à Dieu pour rendre gloire à son Créateur et chanter ses louanges pour l'éternité.
Alors, il est question d'une vie portée, mais il est question aussi de la vie de celle qui porte, de la maman. Cela nous conduit au sujet de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Comment aider les femmes enceintes qui sont face à cette question de l'IVG? Et une fois que l'Église a exprimé sa parole sur le sens de la vie, que fait-elle? Que peut-elle faire pour entendre, accompagner les femmes enceintes? On voit bien là qu'on ne peut pas se contenter d'une parole.
Ben, on ne peut pas se contenter d'une parole, même s'il faut une parole, mais il faut une parole ajustée. En tout cas, cette parole ne peut pas être simplement celle du rappel que la vie est sacrée, inaliénable, qu'il faut la protéger à tout prix. Bien sûr, il faut dire cela. Il faut le dire, il faut le manifester, il faut s'y engager et il faut, si nécessaire, changer l'organisation du monde pour honorer cet impératif. De la protection et de la vie et de son développement. Voilà, il ne faut pas adapter la vie des hommes et du monde aux règles en place, mais il faut adapter les règles pour rendre la vie possible et qu'elle puisse se développer. Ça, c'est ce que nous promouvons en permanence. C'est l'objet de la catéchèse, c'est l'objet de l'annonce de l'Évangile et de la bonne nouvelle. Très bien. Mais en attendant que cela soit effectivement réalisé, que toutes les structures du monde, les lois du monde soient adaptées à cet impératif de la vie et à sa dimension absolument sacrée du point de vue des chrétiens, de la foi, eh bien il faut vivre dans un monde qui n'est pas aussi parfait qu'on le souhaiterait. Et de fait, l'Église a aussi une parole à avoir pour les personnes. Alors il y a la maman qui porte la vie, ou la future maman, ou l'éventuelle future maman, ou la potentielle future maman, et qui peut-être ne le deviendra jamais. Et puis, il y a le papa aussi. Enfin, il y a des personnes impliquées dans le drame de l'avortement, hein, puisque c'est notre sujet. Et donc, la parole que l'on doit avoir, elle est aussi destinée à ces personnes qui sont confrontées à des réalités, à des situations, à des souffrances, dont on ne mesure pas, tant qu'on n'est pas soi-même confronté à cette épreuve, l'importance, l'amplitude et la grandeur. Alors, ça ne doit pas nous faire changer de discours et de regard et de conviction et d'actes de foi à l'égard de la vie, telle qu'on l'a définie dans la révélation et dans la foi, mais ça doit nous faire être profondément ce que Dieu nous demande d'être aussi, c'est-à-dire éminemment respectueux des personnes, et respectueux de leur vie, et les aider, les accompagner. Essayer de les accompagner dans une décision qui n'est pas encore prise. Essayer de voir avec elles comment, et l'Église vraiment est très inventive dans ce domaine-là, à travers toutes sortes d'associations et de personnes très engagées auprès des personnes qui envisage comme première solution à une grande difficulté d'avoir recours à l'avortement, mais qui appellent à l'aide et qui peuvent trouver des personnes qui vont les aider peut-être à prendre une autre décision, non seulement jusqu'à la naissance de l'enfant, mais aussi après, parce que c'est la perspective de cet après qui souvent fait envisager une décision d'avortement. Et donc la parole que l'on doit avoir, elle se traduit aussi par un accompagnement, et un accompagnement au long cours des personnes. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait l'Église? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est cela, c'est manifester beaucoup d'amour pour toutes les personnes, celle qui est à naître et celle qui a une décision à prendre, et aussi celle qui a pris la décision et qui ensuite, torturée dans sa conscience et dans son cœur, vient voir l'Église, un prêtre, un chrétien, un croyant, pour demander de l'aide, pour demander son avis, pour demander son accompagnement.
Là, on a une responsabilité aussi de consolation, en termes de consolation de la maman qui a fait ce choix, peut-être parce qu'elle a aussi manqué d'accompagnement à un moment.
Évidemment, évidemment, évidemment. Et donc là, ben, il faut que l'on soit comme on doit être avec toute personne, hein, accueillir l'autre dans la manière dont Dieu l'accueille et l'accompagne dans un chemin de reconstruction, si cette reconstruction est possible. Et dans la foi, on croit qu'elle est possible, et donc le lui manifester d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire, ça ne se fait pas en lui disant que ce qu'elle a posé comme acte n'est pas grave. L'acte posé est un acte grave. Le corps du Christ ressuscité garde la marque des clous de la croix. Il s'est passé quelque chose, et quelque chose de grave, et quelque chose qui est une atteinte à la vie. Voilà. Mais la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu est plus grande que tout ce qui blesse et abîme la vie. Alors il ne faut pas que, sachant cela par avance, on pose des actes en sachant que de toute façon derrière, Dieu viendra restaurer la vie et donc ce n'est pas si grave. Non, mais ce n'est pas comme cela que ça se présente. Quand des gens viennent, après avoir posé un acte d'avortement, demander la consolation de l'Église, c'est bouleversé de larmes et de culpabilité, et ce n'est pas pour demander un apaisement à bas prix qu'ils font la démarche.
Monseigneur Mika, dans quelques heures, nous allons célébrer la naissance de Jésus. Au tout début de l'Évangile selon saint Jean, nous pouvons lire ceci: « Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous ». Qu'est-ce que cela veut dire? Là aussi, les questions de la vie.
Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. Le Verbe, c'est cette parole de Dieu que l'on voit apparaître dès le début de la Bible, et qui est cette partie de Dieu que plus tard, dans la foi chrétienne, on identifiera comme étant la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu qui, de toute éternité, se tourne vers son Père pour se recevoir de lui et lui rendre l'amour qu'il lui doit en retour. Bon, eh bien, cette deuxième personne de la Trinité est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu par laquelle Dieu crée la vie. Et dans la foi chrétienne, les apôtres progressivement vont comprendre que ce que l'on savait déjà dans la foi d'Israël de la parole de Dieu, du Verbe de Dieu par lequel il a créé, premier livre de la Bible, eh bien, découvre que ces prérogatives de la parole de Dieu sont dans la personne, dans le personnage de Jésus qu'il côtoie et avec qui il vit sur les chemins de Palestine. Et il découvre que quand Jésus dit à un blessé, à un malade, « Sois guéri », il est guéri immédiatement. Ça, c'est une caractéristique de Dieu et de Dieu seul. « Je te le dis, tes péchés sont pardonnés ». C'est une caractéristique de Dieu et de Dieu seul. Et donc, ils vont arriver à cette conclusion de foi que celui qu'ils ont sous les yeux, celui qui a été mis en croix, celui qui a été déposé au tombeau et qui est ressuscité le matin de Pâques, c'est la parole de Dieu qui est devenue homme, le Verbe fait chair.
Nous terminons cet entretien, Monseigneur Mika, avec votre message de Noël pour tous les auditeurs de Radio Présence, mais aussi pour tous les chrétiens du diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Dans les bras de Marie et de Joseph, nous contemplons un miracle, celui de la vie d'un bébé qui vient de naître. Les chrétiens reconnaissent dans la naissance de Jésus l'incarnation du Verbe de Dieu dans notre chair humaine. Notre chair humaine. Nous le savons depuis toujours, cette chair est marquée par la blessure originelle infligée à l'humanité, le jour où l'homme libre s'est retourné contre son Créateur. Le péché est entré dans le monde, dans l'histoire, dans la vie de chacun, même des prêtres et des évêques. Le péché est entré dans le monde et a perverti le cœur des hommes. Appelés à la vie, ils peuvent devenir des donneurs de mort. Ainsi, quand Caïn porte la main sur son frère Abel, ainsi, quand les peuples se font la guerre, ainsi, quand des conditions économiques, politiques, sociales injustes poussent des familles, des enfants à monter sur de frêles esquifs et sont engloutis par la mer. Ainsi, quand la vie à naître est menacée, ainsi, quand la vie qui finit est considérée comme une charge insupportable. Un Jésus aussi fragile que peut l'être un enfant né à la belle étoile dans un abri de fortune, nous savons reconnaître le prince de la paix, le roi de l'univers, notre Dieu, créateur et sauveur. En Jésus, l'humanité trouve le chemin de la guérison. un Jésus qui vient, l'humanité qui espérait voir le jour de Dieu, est exaucée. Je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous une excellente fête de Noël. Que l'enfant de la crèche apporte réconfort et consolation, qu'il comble de joie les enfants et les parents, qu'il réconforte ceux qui sont seuls, qu'il bénisse la vie de ceux qui servent la vie des autres, de ceux qui donnent la vie, de ceux qui protègent nos vies. Très bon Noël à vous, chers auditeurs de Radio Présence. Priez pour notre diocèse et confiez-le encore et encore à la double protection de Marie et de Joseph. Nous sommes le corps du Christ qui naît chaque jour un peu plus. Soyons ensemble des donneurs de vie.